ça rime à quoi ? Ça rime à quoi ? De la gare Saint-Lazare à la porte de Montempoivre, en autobus, aux côtés de Jacques Roubaud et son éternel cabas. Jacques Roubaud, vous avez longtemps été le numéro un des biographies lapidaires, avec cette carte de visite la plus expresse et économe qui soit. Cela disait « Né en 1932, point, mathématicien, point ». Aujourd'hui que vous avez délaissé la mathématique pour fêter vos 80 ans en poésie, comment vous définiriez-vous ?
Bien, aujourd'hui, je dirais que je suis... En fait, la définition que je pourrais donner, je peux la donner en anglais, si ça ne vous gêne pas.
Il faudra la traduire.
Voilà, mais je n'ai pas trouvé de bonne traduction. En anglais, ça donne ceci. Mathematician, retired. Poet, not retired, but tired. Donc, mathématicien à la retraite. Poète qui n'est pas à la retraite, mais qui est fatigué.
C'est beaucoup plus long.
C'est beaucoup plus long et puis ça ne va pas, parce que retired, tired, c'est parfait. Mais personne ne m'a trouvé une bonne traduction.
Les éditions Attila publient cette ode à la ligne 29 des autobus parisiens. Vous allez donc pouvoir répondre à cette question que je me pose chaque fois qu'un 29 me passe sous le nez, avec ce terminus mystérieux indiqué. C'est une question un peu façon Françoise Sagan ou Claude Roy, mais où va donc la porte de Montempoivre ?
Mais vous connaissez bien la ligne 29, alors ?
Non, je vois cet intitulé tout en haut du bus qui dit terminus, porte de Montempoivre, et je n'y croyais pas jusqu'à ce livre.
Ce nom est tout à fait extraordinaire et donc ça donne envie d'aller à la porte de Montempoivre. Et puis la porte de Montempoivre est un endroit très agréable que je vous recommande de fréquenter.
Qui existe bel et bien alors.
Elle existe.
Le bus y
elle
va.
Elle existe et c'est la fin, le terminus de cette ligne qui est une ligne tout à fait attachante. Une ligne modeste, un peu rare. On le voit parce que son terminus, le premier à Saint-Lazare, se situe un peu en dehors des autres. Elle est un peu reléguée dans le lointain parce qu'elle n'a pas la grande importance des lignes comme le 20, le 27, le 26. Donc,
elle pourtant, elle passe
cachée.
Au cœur de Paris.
Comment ?
Pourtant, elle passe au cœur de Paris.
Elle traverse Paris de part en part, disons. On peut dire, en coupant en deux, d'ouest en est, la moitié est. Elle fait toute la moitié est, pratiquement.
Elle est exclusivement rive droite ?
Ah oui, elle est exclusivement rive droite et elle va donc jusque dans le 12e.
Paris est au centre de vos poèmes, Jacques Roubaud, depuis Belle Lurette. Et la ligne 29 déjà, que l'on pouvait retrouver dans ce sonnet qui était dans la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains. Vous voudriez bien nous le lire pour débuter avec un poème plus vieux, mais qui dit déjà votre attachement à la ligne 29. Car ça, c'était en 99, il y a plus de
oui,
presque 15 ans.
Oui, ce sont des poèmes composés dans les années 90. Ligne 29. Et donc, il y a au début, avant le poème lui-même, il y a une phrase en anglais qui indique ce que j'aime beaucoup faire avec les lignes d'autobus dans des villes où je n'ai pas été et que je ne connais pas, c'est aller jusqu'au bout. To the end of the line for sheer pleasure, pour le plaisir d'aller, de faire toute la ligne. Et je reviens par le même chemin en général. Dans beaucoup de cas, d'ailleurs, le chemin n'est pas forcément le même quand on revient. Alors, c'est un sonnet qui s'appelle ligne 29. Sur de petits cailloux tombent les larges feuilles, déjà. Des tables de ping-pong sont disposées à la surface de faux marbre. La rosée du tout premier matin sur les rosiers m'accueille. Je suis venu de loin, Je suis passé par Reuilly, puis Picpus, le pas vif et l'œil avisé, pour annoter les rues par la voirie brisée, les chaussées défoncées, les bacs, les grues, les treuils. Bientôt je connaîtrai tous les bancs de la ville. J'aperçois des mégots, des tiquets, des fourmis. Une corneille chute, acariâtre, incivile. Conformément au plan, mes relevés finis, j'achèterai du beurre et forcément du poivre. On trouve tout cela porte de Montempoivre. Alors, bien entendu, il y a des choses qu'il faut expliquer. Dans mon poème, il y a des notes. Quand je dis « je suis venu de loin », c'est de Saint-Lazare. Et je parle des tickets, ce sont des tickets de bus ou de métro usagés. Voilà, vous avez y aller. Alors, ce sont des fourmis qui sont toutes neuves. J'ai mis une note pour fourmis, parce qu'elles sont toutes neuves. Et puis, mes relevés, c'est des relevés de détails. Et je suis allé à cette époque-là, je ne sais pas s'il existe toujours, dans un GAM, qui était un magasin couche-tard.
Ce sonnet-là, Jacques Roubaud, a donc presque 20 ans. Déjà la ligne 29, durant toutes ces années, qu'est-ce que vous avez découvert de neuf à Montempoivre, puisque ce livre aux éditions Attila fait toute une épopée de vos trajets, de vos transports sans correspondance, puisque ça va tout droit et on ne change pas de bus.
En fait, la porte de Montempoivre, j'y suis allé beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de trajets sur la ligne 29 pour écrire mon poème. Ça représente quand même un nombre considérable de trajets et le souvenir d'un nombre considérable de trajets. Donc j'ai été des tas de fois à la porte de Montempoivre. Elle change un peu, beaucoup, mais elle se ressemble quand même.
Mais vous prenez le bus pour écrire ou vous écrivez parce que vous prenez ce bus-là ?
Bien, dans ce cas précisément, j'ai décidé donc de consacrer un long poème. Je n'ai pas l'habitude d'écrire des poèmes très longs. J'ai décidé de le consacrer à cette ligne 29. Donc j'ai pris beaucoup de fois cette ligne d'autobus. Mais en fait, je ne compose pas vraiment dans l'autobus. Je compose toujours à ma manière, c'est-à-dire en marchant et dans ma tête. Mais quand je suis dans l'autobus, je regarde, je vois, je note des détails qui seront utiles pour mettre dans mon poème.
Alors en voiture et à voix haute, Jacques Roubaud, puisque ce livre, cette ode à la ligne 29 des autobus parisiens, est conçu autant pour l'oreille que pour l'œil. On part du terminus, parce que le terminus est au debout.
Oui, alors moi je suis parti du terminus Saint-Lazare. En fait, il y a un certain nombre d'arrêts en autobus et je suis passé d'un arrêt à l'autre et j'ai consacré une strophe de mon poème à chaque passage d'un arrêt à l'autre.
Vous connaissez tous les chauffeurs de la ligne 29 ?
J'ai eu la chance, en faisant une signature pour ce livre dans une librairie de Vincennes, je pense, de voir arriver un des machinistes de la ligne 29 qui m'a fait d'ailleurs une observation qui est que je me trompe à plusieurs reprises puisque je parle de conducteur, mais pour les autobus, on ne parle pas de conducteur, mais de machiniste.
Ni chauffeur, ni conducteur, alors.
Oui.
Machiniste.
Alors, le problème de la lecture, c'est que j'ouvre beaucoup de parenthèses.
Et en donc, couleur.
Elles sont signalées par des couleurs. Évidemment, quand je le lis tout seul, c'est un peu difficile pour moi. L'autobus 20 et 9, départ de Saint-Lazare, comme la ligne 20. Ce n'est pas par hasard. Les lignes dont le nom commence par un 2 partent toutes, partez, des lazaréens lieux. À moins que dépecées un jour par un caprice de la RATP, quelqu'une ne finisse ailleurs. Ainsi le 20 et 2 à l'opéra, célèbre par son chic et par ses petits rats. Ce haut lieu musical où des milliers se pressent, tels des touristes en partance vers la Grèce, pour entendre Don Juan, Falstaff ou Turandot avec plus de ferveur qu'en attendant Godot de Mauroy, disait un guidame devant le poste, confondant avec la rue où, fidèle au poste, la donzelle chantée par Brassens opérait le recrutement d'un client bien argenté. J'insère ici deux vers que je vous donne en prime afin de respecter l'alternance des rimes. Bon, ça commence comme ça. Et en fait, il y a une parenthèse qui a été ouverte, départ de Saint-Lazare, comme la ligne 20. Mais après, les parenthèses se multiplient parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et donc je change d'orientation et je ne retrouve mon récit qu'un nombre considérable de vers beaucoup plus loin, presque 3 pages.
Par exemple ?
Et par exemple, là, l'autobus 29 départ de Saint-Lazare, ensuite vous avez beaucoup de vers et puis après s'élance sur la voie et en quelques instants fait son premier arrêt en face du printemps. Voilà. Mais entre le premier vers, l'autobus 29 départ de Saint-Lazare, et celui où je dis s'élance sur la voie et en quelques instants fait son premier arrêt en face du printemps, il s'est passé beaucoup de choses dans mon poème. C'est des tas de parenthèses parce que je pense à des choses qui ont besoin d'être expliquées. Et voilà.
Ce qui veut dire, Jacques Roubaud, que si vos lecteurs veulent prendre le bus, ils ne sont pas prêts de l'attraper.
Pourquoi ?
Ça prend un temps fou de vous lire, du début à la fin.
Non. À mon avis, c'est pas très. Chaque strophe n'est pas extrêmement longue.
C'est bien plus long qu'un sonnet, ce livre-là.
Ah oui. Ah oui, oui, il y a plus de 2000 vers. C'est plus long qu'une tragédie de Racine, nettement. Ça fait presque une tragédie et demie de Racine comme longueur. En plus, il y a quand même les parenthèses que l'on ouvre, pour lesquelles il faut attendre la fermeture, ont tendance à ralentir un peu. Et par ailleurs aussi, il y a beaucoup de fautes d'orthographe.
Ce ralentissement, Jacques Roubaud, ça suit le rythme de l'autobus aussi, qui s'arrête
sans
arrêt.
Ça suit le rythme de l'autobus parce qu'il y a à certains moments, l'autobus est coincé par les feux rouges ou par les voitures qui n'avancent pas. Et donc, ça, je suis quand même le ralentissement de l'autobus.
Et les fautes d'orthographe, pourquoi ? On les entend guère à voix haute, c'est pour que ça rime plus riche à l'œil. Par exemple, caprice avec 2 S comme finis, ou bien poche et gauche avec AU dans les 2 cas ?
Ça tient au fait que j'ai voulu faire des vers très corrects. Alors, des vers très corrects, d'une part, ils doivent satisfaire à toutes les conditions que respectaient des gens comme Molière, Corneille ou Racine. Hein. Donc, il ne faut pas faire des hiatus, mettre 2 voyelles au contact. Il faut couper le vers au milieu correctement. Et puis, il faut que ça rime bien. Mais pour que ça rime bien, il faut que c'est le même orthographe.
Hein. Mais ce n'est pas de jeu, ça.
Comment ?
On n'a pas le droit de faire ça.
Ah, on n'a pas le droit de faire ça, mais...
On ne peut pas écrire faute avec un O.
Mais c'est quand même moi qui décide. Donc, si les mots n'ont pas la bonne volonté d'être exactement ce qu'il faut pour que ça rime et pour que le vers soit correct, eh bien, il faut agir sur eux. Et il faut agir sur eux, et forcément, ça produit quelques effets par rapport à l'orthographe.
Le coup de la diérèse, en revanche, que vous indiquez sur la page, Jacques Roubaud, avec ce petit tiret pour dire « attention, il faut prononcer les syllabes en les détachant », c'est une anti-sèche pour vos lecteurs que vous avez utilisée depuis très longtemps. Je me rappelle cet alexandrin, c'était un jour de juin sans complication. Et il fallait bien noter le « ion », mais c'était dit. La diérèse, chez vous, elle est stabilotée via ce petit tiret-là.
Oui, parce que là j'ai été aimable pour le lecteur. Je lui ai dit, comme il faut que le vers soit très correct, quand il y a besoin de faire une diérèse, hein, de séparer le « ilion » par exemple, comme font Victor Hugo et les autres, hein, donc je le signale. Dans d'autres cas, au contraire, je signale aussi qu'on peut raccourcir. Par exemple, on peut dire, non pas « poète » avec deux syllabes, mais on peut dire « poète ». Ça va très bien aussi.
Alors on peut dire « ode » ou « ode » ?
Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est pas vraiment exigé par les règles du vers. C'est exigé par le fait que je suis d'origine provençale et que j'ai eu quand même beaucoup de mal à prononcer les choses comme on le fait au nord de la Durance. Donc, ode, moi je dirais plutôt ode.
Moi, ça me va bien aussi. On reprend la route. Suran était imbattable, lui aussi en connaissance de bus, mais de correspondance. Vous, Jacques Roubaud, vous restez un maniaque de la marche et de cette ligne 29. 29 ou 29 ?
Comme on veut, 29 ou 29, ça dépend. 29, moi je dis 29.
En tout cas, elle trace tout droit. Alors on remonte à quel arrêt ?
Tout droit. Elle va tout droit, mais bien entendu, on rencontre beaucoup d'autres lignes. Bon, je ne me suis pas laissé tenter par le fait de faire ces bifurcations. À un certain moment, j'aurais pu prendre la ligne 74. J'aurais pu en prendre beaucoup, hein, d'autres lignes, parce que ça se croise. Ça m'aurait engagé peut-être dans une entreprise de composition qui aurait bien duré une bonne soixantaine d'années. C'était pas vraiment envisageable à mon âge, donc j'ai renoncé, j'ai décidé de rester sur la ligne 29 et de ne pas me laisser gagner par le désir de rendre compte de tout, hein, ce qui est quand même une tentation très forte. Par exemple, je ne reviens pas. Je vais jusqu'à la porte de Montempereur, mais je ne reviens pas. J'avais l'intention de revenir.
Ce sera un second volume.
Non, au début, je me suis dit, bon, je ne pensais pas que ça serait si long, donc je me suis dit, je vais aller jusqu'à la porte de Montempereur et puis je vais revenir parce que ce n'est pas exactement le même trajet. Et puis, je ne vais pas faire les vers de la même façon pour le retour. Au lieu de faire des alexandrins, je vais faire des décasyllabes, par exemple. Mais bon, quand je suis arrivé à la porte de Montempereur enfin et que j'ai décidé que c'était terminé, j'ai compris que je n'écrirais pas le retour.
Parce qu'il faut préciser, en effet, Jacques Roubaud, que vous maniez l'alexandrin rimé, celui qui vous tenait déjà à cœur dans ce titre-là, baudelairien, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains, et tous ces alexandrins des sonnets que vous avez composés et aussi recueillis lorsqu'ils appartenaient à d'autres. Vous voulez nous lire la petite notice qui vient à la fin et qui explique ce qu'est un vrai alexandrin rimé ? Vous n'y êtes pas trompé sur la marchandise ?
J'ai fait ça, moi.
Oui, dans le cahier des charges. En bon artisan, vous expliquez ce qu'est une ode et ce que sont les vers des alexandrins.
Et ça se trouve où, ça ?
Page 121.
Ah oui.
D'ailleurs, on peut le lire.
Ah oui, c'est vrai, d'ailleurs. Mon ode est un poème conté, rimé. Alors, les vers, ce sont des alexandrins classiques, mais d'une espèce particulière. C'est-à-dire qu'ils sont classiques typographiquement. Les poètes avant se permettent des variations, alors qu'ils sont peut-être classiques, leurs vers, mais ils ne sont pas typographiquement corrects. Ils ont deux hémistiches, chacun six syllabes, métriques, séparés par un intervalle, toujours le même, cinq espaces à la machine, toujours marqués, même si cela implique de couper un mot en deux, par exemple. C'est que Marne et Neuviet, Moise, ne riment pas. Vous comprenez que Neuviet, Moise ne pouvait pas entrer dans le vers.
Et donc il est coupé, il y a cinq espaces.
Voilà, il a été coupé et il y a un espace qui marque bien qu'on a coupé. Les sixièmes positions de chaque vers sont toujours marquées. Hein, dans un alexandrin normal, cette sixième position, elle est toujours forte. Cela entraîne la promotion de certains e-muets. Non est l'idée qu'ils sont présents en ces positions. Par exemple, « plus belle que toutes », celle de Seine-et-Oise.
Toutes, écrit T-O-U-T-E-U-S.
Pour bien insister sur le fait que cette sixième syllabe, « e », doit être dite fortement. Toutes. Sinon, qu'est-ce qu'on dirait ? On dirait « plus belle que toutes celles de Seine-et-Oise ». Ça ne fait pas un alexandrin, ça. Certains e-muets qui ont été interdits par Malherbe, ce Malherbe, c'était vraiment un coquin, et il interdisait certains e. Donc, moi je note que je les ai enlevés en mettant un petit signe.
Une apostrophe qui dit l'élision.
Une apostrophe qui indique l'élision.
Comme dans les chansons.
Voilà, comme dans la chanson. Ouais. D'ailleurs, c'est l'aspect oral est très important. Les diérèses classiques sont souvent indiquées, comme suit dans l'exemple, dans un film de Clouzot, autre confusion. Mais le contraire de la diérèse existe aussi. C'est ce qu'on appelle la synérèse. Et la synérèse raccourcit un mot. Pour entendre Don Juan, Falstaff ou Turandot. On ne va pas dire Juan, on va dire Juan.
Et pourquoi pas de majuscule, Jacques Roubaud, à Clouzot, Don Juan, Falstaff ou Turandot ?
Parce qu'il faut savoir que le vers classique commence par une majuscule. Mais si vous mettez des majuscules au milieu, vous allez tromper votre monde.
Mais la scène, il faut une majuscule.
Non, 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 non. Le mot doit se soumettre à la règle. Tous les mots doivent être soumis à la règle. Donc, majuscule au début du vers, et tous les vers, il y a beaucoup plus de vers que d'alexandrin, tous commencent par des majuscules, mais en revanche, pas de majuscule à l'intérieur. Ça serait tout à fait incorrect, on aurait l'impression qu'il y a un nouveau vers qui n'a pas été noté. Non, c'est pas possible. Et puis, bien entendu, quand on dit le vers classique, Il est bien entendu que l'on fait des liaisons. On fait des liaisons, on ne sépare pas les mots bêtement. Et là, par exemple, 25, 25, 25, c'est en des vers émus. Voilà, parce que les vers, ils sont émus.
Et ils sont émus comme un zèbre, avec un Z au début.
Avec un Z pour indiquer la liaison. Vous voyez ? Oui, il y a pas mal de règles comme ça. Hein. La règle est assez longue. Et il y a un problème assez délicat que je vais passer à la règle 10. C'est ce qu'on appelle la règle d'alternance. Parce que pour les auteurs de tragédies classiques qui écrivent en vers, eh bien, quand ils ont écrit deux vers qui se terminent par ce qu'on appelle une finale masculine, comme « matin »,« bien », mais après, ils doivent changer de rime, mais la rime ne doit plus être à finale masculine, elle doit être à finale féminine. Ça doit être tomate, automate. Donc, on doit toujours faire alterner les rimes masculines et les rimes féminines. Alors, apparemment, ça ne semble pas gêner Molière, Racine, Corneille, tous ces gens-là, ils font ça très naturellement. Alors, mais c'est quand même très, très difficile, parce que, imaginez-vous, dès que vous avez écrit un vers, vous devez en écrire quatre, hein, parce qu'il faut un deuxième vers qui va rimer avec le premier, et ensuite un troisième vers qui va rimer avec un quatrième et qui ne sera pas de la même espèce. Voilà. Écrire un vers, ça oblige à en faire quatre. J'ai eu quelquefois des difficultés pour ça. Et certaines fois, d'ailleurs, j'avais oublié. J'avais pas fait l'alternance et donc j'ai introduit quelque chose. Je dis, j'insère ici deux vers que je vous donne en prime pour assurer l'alternance des rimes. Hein. Voilà.
Et le dernier vers, Jacques Roubaud, il doit finir par une féminine ou pas ?
Ah, c'est le seul problème. J'ai beaucoup discuté avec moi-même et en marchant. Hein, ce sont deux langues que je connais très bien. J'ai beaucoup discuté avec moi-même pour savoir si j'allais terminer par une syllabe, par une rime masculine ou par une rime féminine. Et finalement, c'est le mot final qui s'est imposé, c'était le mot ping-pong. Donc voilà. Donc j'ai terminé par une rime masculine, mais c'est pas trop grave parce que le premier vers est en rime féminine. Donc si on raccourcit mon poème pour ne garder que deux vers, vous avez un vers en rime féminine et un en rime masculine, non, ça va.
C'est une licence.
Voilà.
On retourne à un arrêt de votre ligne 29, Jacques Roubaud, pour lecture, par exemple, Bastille-Beaumarchais.
Bastille-Beaumarchais. Bon, je commence alors. Supposons maintenant qu'une température de 33 degrés règne autour des voitures. Qu'allons-nous constater ? Voyons, vous savez bien, vous ne le savez pas, mais vous ne savez rien. Le boulevard Bourdon est, c'est obligatoire, absolument désert. Nous connaissons l'histoire du fameux incipit de Bouvard et Pécuchet, remanié souvent afin qu'il soit parfait. Donc, on sait bien que le Bouvard et Pécuchet...
Ça, c'est une parenthèse.
Oui, c'est une parenthèse en prose, que je fais en prose orale, que Bouvard et Pécuchet, c'était très difficile pour Flaubert de commencer. Il a remanié sans cesse la première phrase pour finalement obtenir celle qui est absolument parfaite. Il faisait d'une chaleur de 33 degrés, bon, et le boulevard Bourdon était absolument désert. Hein, bon. Donc, voilà. Moi, je suis dans cette situation, il fait très chaud. Hein. Il fait très chaud, mais je ne suis pas sûr qu'il faisait 33 degrés, mais enfin, pas loin. Hein. Donc, bien évidemment, je fais allusion là à ce début de Bouvard et Pécuchet. Personne dans les rues, personne sur la place, le soleil dans les cieux rampe, lourde limace. Or, s'il en est ainsi, le lieu nous appartient. S'il ne se passe que pouic. Hein, vous voyez, puisqu'il ne se passe rien, on peut aller ailleurs. Voilà. Et après, on est obligé de revenir parce qu'on est sur la ligne 29, donc il ne faut pas s'éloigner trop, parce que j'aurais pu traverser la Seine, je pouvais être tenté à ce moment-là ayant au fond un peu de temps, de partir avec Guillaume Apollinaire le long de la Seine. Je marchais au bord de la Seine, un livre ancien sous le bras, le fleuve est pareil à ma peine, il s'écoule et ne tarit pas, quand on finira la semaine. Bon, mais je ne pouvais pas faire ça, puisqu'il fallait quand même que je suive ma ligne 29. Donc j'ai abandonné Apollinaire et je suis revenu à Bastille.
À quoi ressemblent vos journées, Jacques Roubaud ?
Eh bien, en temps ordinaire, quand je ne suis pas en train d'expliquer mon ode
comme aujourd'hui
dans différents endroits, je me réveille entre 3 et 4 heures du matin et je dispose là de plusieurs heures d'une tranquillité considérable dans Paris pour travailler. Et en général, disons, on peut considérer que vers midi, ma journée est terminée.
Alors vous prenez le bus ?
Alors, par exemple, je prends le bus ou je marche, je prends même le métro. Hein, voilà.
T'es trop poulipien, le métro ?
Alors, le métro, d'une part, le métro a été considérablement investi par mon ami Jacques Jouet de l'Oulipo, qui a écrit des poèmes de métro. Bon. Moi, je ne suis pas capable d'écrire des poèmes de métro. Et j'ai d'ailleurs fait une expérience très désagréable avec les poèmes de métro parce que, bon, le principe du poème de métro, vous le connaissez, vous montez dans le métro part, pendant qu'il est en train de bouger, vous composez un vers, et puis quand le métro s'arrête, vous l'écrivez. Et puis ça continue après. Bon, ça, c'est le principe du poème de métro. Je m'étais dit, un jour où j'étais à Tokyo, je me dis, je vais aller dans le métro, je vais faire un poème de métro. Hein, c'est normal. Bon, ça sera fort intéressant comme expérience.
Vos premiers poèmes, Jacques Roubaud, étaient inspirés du Japon déjà.
Oui, voilà. J'étais à Tokyo et je me suis dit, je suis à Tokyo, poème de métro. Donc je monte dans le métro, la Marunouchi Line, et je me suis rendu compte au bout d'un moment que ce n'était pas possible parce que comme je ne lis pas le japonais, je savais, il fallait que je fasse très attention pour savoir où j'étais, pour pouvoir sortir et pas me tromper de station. Donc mon poème était uniquement consacré à des considérations sur le fait qu'il fallait que j'avais fait la deuxième station, mais il ne fallait pas que j'oublie la troisième, donc ce n'était pas possible. Quels sont les autres moyens de transport ? Il y a le cyclisme. Or, je ne sais pas, je n'ai jamais composé à vélo. Et d'ailleurs, en plus, je pourrais dire que d'une certaine manière, je n'oserais pas composer des poèmes à vélo, même si j'étais encore capable de faire du vélo, ce qui n'est pas mon cas à 80 ans, je ne le ferais pas parce qu'il y a un poète qui a travaillé beaucoup dans Paris à vélo et je ne vais pas faire ces Jacques Reda. Et il n'y a aucune espèce de raison que moi aussi je fasse des poèmes à vélo.
Ode à la ligne 29 des autobus parisiens de Jacques Roubaud est publié aux éditions Attila. Ça rime à quoi ? 24 heures sur 24 sur franceculture.fr pour réécouter durant 1000 jours et demi et télécharger librement le temps d'une année entière. Ça rime à quoi ? Philippe Bredin, Anil Bosselet, Anne de Biran, Patrick Molinier, Sophie Nolot. Changement de décor dès 20h30 sur France Culture, place au théâtre avec Joël Gaillot.